Quel est votre problème? Et c'est vrai ici, mais c'est vrai ailleurs. C'est l'accès au financement. Et lorsque vous avez la chance d'y accéder, c'est à un coût plus élevé qu'ailleurs, au motif que vous auriez une prime de risque, un risque de place, pour parler comme les banquiers, qui justifierait un différentiel de taux plus important. Ce n'est pas toujours justifié. Bon, donc la BPI restera une banque, bien entendu. Elle n'a pas vocation, comme quelqu'un a pu dire, je crois que c'est son président même, à financer des canards boiteux, ni à faire ce qui a été désastreux en son temps, c'était l'affaire du Crédit Lyonnais. Ou c'est les politiciens qui disaient tu finances ça, et puis finalement, il y a une belle ardoise. Et aujourd'hui, il y a même une sorte de caisse pour amortir la dette du Crédit Lyonnais. Bon. Mais en tout cas, la doctrine d'intervention de la Banque publique d'investissement, elle porte bien son nom, publique d'investissement, c'est de faciliter, notamment pour les TPE et les PME, l'accès au financement bancaire, de permettre autant que cela est possible, selon des modalités qui sont en discussion, à trouver les garanties et à trouver les préfinancements de certaines opérations. C'est vrai pour le crédit d'impôt, mais c'est vrai aussi pour certaines grosses opérations d'investissement. Donc, préfinancement, garantie. Mais ce sont des sujets un peu compliqués, mais qui sont... On aura ces discussions-là avec vous. Je crois savoir qu'une mission doit venir, je crois, en janvier, de la BPI. J'ai eu personnellement plusieurs fois des discussions, et récemment encore dans mon bureau, avec M. Jouyer, qui est le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui s'intéresse d'ailleurs à la Polynésie sur d'autres sujets, notamment le logement social, et qui est le président, non exécutif, mais le président de la BPI, avec M. Nicolas Dufour, je crois, le directeur général. Ça vous intéressera. Et donc, n'hésitez pas à faire des propositions. Les banques, on vous a donné un autre moyen. Le OCR vient de voir, j'allais dire, augmenter ses compétences et les moyens de la décision. On avait mis dans la loi régulation économique un dispositif qui consistait à discuter avec les banques pour baisser certaines prestations bancaires, certains services bancaires. Je crois que c'était 12 ou 14, 16 prestations bancaires. On s'est rendu compte que rien n'est donné. C'est toujours difficile d'obtenir. Et lorsqu'on croit que ces groupes ne s'intéressent pas à un centime près, ils s'y intéressent et ne lâchent pas facilement, eh bien, que ça ne marchait pas, ou alors c'était trop laborieux. Et que on a donc repris le texte, c'est vrai, dans un acte de volontarisme économique, donc de détermination politique. De dire, puisque ça ne marche pas, eh bien, il faut passer à une phase un peu plus, non pas coercitive, mais pour inciter à obtenir un meilleur rapport, tout en respectant la liberté des banques et leur capacité à faire du profit. Ça ne me choque pas, au contraire, il en faut. Bon, désormais, même si ici, en Polynésie, vous aurez peut-être un petit retard par rapport à d'autres DOM, ça tient à la manière dont le texte a été libellé et sur les engagements qui avaient déjà été pris ailleurs. Mais le haut commissaire aura désormais, après une phase préalable de discussion et de négociation avec les banques, il pourra imposer, s'il estime, et ça a été le cas en Nouvelle-Calédonie, que l'accord tel qu'on l'avait obtenu, enfin au stade où on en était de la discussion, n'était pas, à mon sens, signable, disons ça comme ça. Et donc, le haut commissaire là-bas pourra aller plus loin tout en respectant les fondamentaux, en s'entourant de conseils de l'IEOM, l'Institut des missions des Outre-mer. Bon, de l'Outre-mer. Ça aussi, c'est permettre de faire comprendre lorsque la concurrence est défaillante, lorsque le marché ne joue pas tout à fait son rôle, sans vouloir être intrusif ou trop interventionniste, l'État doit jouer tout à fait son rôle. Et donc suppléer à la carence du marché, ce sont des choses que vous apprenez dans les meilleurs manuels d'économie, sans vouloir sombrer dans je ne sais quel soviétisme ou quelle mesure soviétiforme. Bon, on fait le travail. Et pour être plus spécifique avec vous sur la Polynésie, l'État ne laisse pas tomber le territoire. Stabilisation des conditions politiques pour qu'il y ait quelque visibilité de l'action publique. Deuxièmement, on confirme et on veut petit à petit revenir sur ce qu'un précédent gouvernement a pu faire, en supprimant des crédits. Compte tenu de la dureté des temps, on ne peut pas faire ça comme ça, mais petit à petit, on retrouve, si j'ose dire, des montants plus conformes à une certaine trajectoire budgétaire. Bon, donc on a maintenu ce que vous appeliez la dette nucléaire, des GDE avec plusieurs instruments, dont 90 millions en DGA, 9 millions sur, disons, le FIP, parti État, et 51,3 millions, j'ai ça de mémoire, pour ce que nous appelons, et que vous connaissez, le troisième instrument. On vient de signer avec le président du gouvernement de la Polynésie une convention pour assouplir, alléger les difficultés et permettre une meilleure consommation, de nature donc à alimenter la commande publique. Donc on fait tout, nous, État, pour alimenter la commande publique, même si nous ne sommes plus tout à fait compétents, et aux avant-postes, puisque c'est vous qui l'êtes désormais depuis un moment. Mais l'État tente de vous garantir un socle minimal de dotation, d'assouplir les conditions d'utilisation pour alimenter la commande publique. On vient de signer. Même chose pour le contrat de projet. C'est quand même le contrat de projet 2007-2013. C'est quand même 399 millions d'euros, 400 millions d'euros. Dont 177 pour l'État, 177 pour le territoire, le reste par l'Office polynésien de l'habitat. Bon, pour le moment, on a engagé à peu près 200 millions, j'arrondis, 185 millions pour être très précis, dont 80 millions payés par l'État. Bon, c'est quand même là un matelas qui est là et qui permet, si les dossiers ne sont pas enquistés dans des procédures trop bureaucratiques, et c'est là qu'il faut améliorer l'environnement économique, alléger les contraintes d'urbanisme et que sais-je encore. Bref, pour alimenter votre commande. Ça existe, on ne l'a pas diminué, au contraire, on l'a conforté. Sur d'autres instruments, sur le FIP, on l'a dit, il y a peut-être là, pour permettre aux communes de travailler, à voir avec le pays, avec l'État, comment, tout en respectant l'autonomie, mais comment faire pour que les communes puissent, elles aussi, honorer leur engagement, payer les factures et entretenir la commande publique. Donc on le fait. On vient de prendre, et je viens de dire quelques mots devant des responsables du logement social. Voilà une nouvelle frontière pour vous. Vous avez à peu près 4200 logements en file d'attente depuis trop longtemps. Nous-mêmes, dans les Outre-mer, on a 100 000 logements qu'on veut construire sur les 10 ans qui viennent. Donc chaque année, faire 10 000 logements. Ça paraît un détail de dire ça, et pour certains, on dira que c'est peu. On était à l'époque à moins de 4 000 logements par an dans tous les Outre-mer. On est monté à 4 500, maintenant on est à 7 500. Pour passer de 7 500 à 10 000, 2 500 de plus, je peux dire qu'il faut trouver l'argent. Et c'est considérable. Si à démographie arrêtée, à démographie constante, telle qu'elle est aujourd'hui ici ou là, à La Réunion, à Mayotte, où c'est très dynamique, en Guyane, où la démographie augmente, alors que partout elle stagne, y compris chez vous en Polynésie. J'ai lu le dernier recensement statistique que vous avez pu faire. À démographie constante, il faudrait construire pendant 10 ans 10 000 logements par an. Il n'y a pas la Polynésie dedans. Donc, ce que nous finançons, nous, avec la LBU, la ligne budgétaire unique pour Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et désormais Mayotte, eh bien, ici, c'est le contrat de projet, avec l'accent mis désormais et plus encore sur la période à venir, 2015-2020, puisqu'on a prorogé pour une année supplémentaire pour consommer le maximum de crédits les 400 millions. Bon, on a mis l'accent davantage sur le logement. Et je peux vous dire, ça peut donner du boulot. Et puis, j'ai eu à le dire aux parlementaires polynésiens, au président Floss, à toutes celles et tous ceux que j'ai vus aujourd'hui, il faut donner à voir, à mon sens. Mais je ne dis pas ça là pour donner des leçons. On respecte une autonomie. Et c'est ce qui se fait. On commence à dire, compte tenu de la situation, de la crise externe et de la crise interne depuis longtemps, du tourisme qui a reflué, du chômage qui a doublé en 5 ans. Donc il faut assainir. Et donc c'est une politique que l'on conduit partout. Il faut assainir sans être trop douloureux dans son exécution. Mais il faut assainir pour retrouver des fondamentaux. L'État fera ce qu'il faut faire si le sérieux budgétaire est respecté. Bon, il faut assainir. Mais on ne passera pas notre temps à faire dans le dolorisme économique et fiscal et croire que c'est ce qui va faire rêver les citoyens. On en sait quelque chose à Paris. Il faut faire rêver un petit peu, sans pour autant mentir aux gens. François Hollande a appelé ça, en reprenant une phrase de Césaire, il faut une espérance lucide. La lucidité, c'est que vous avez les yeux grands ouverts. Mais en même temps, il y a espérance dedans. Vous espérez quelque chose parce que vous croyez en des lendemains qui seront moins difficiles que le jour d'aujourd'hui. Bon. Et donc, il faut cette espérance lucide et il faut donc donner à voir. Il faut un projet de société. Sinon, en Polynésie, mais on le voit ailleurs, on passera notre temps à dire, mais nous sommes les plus mal situés dans l'échelle du développement économique pour les Outre-mer français. Donc le seul discours qui sera tenu, et c'est désespérant, c'est de dire le rattrapage. Bien sûr, il faut faire le rattrapage. Mais pour donner à voir, il faut commencer à réfléchir sur soi et dire, mais qu'est-ce qu'on vend à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur propose? Un projet de société. Et s'il y a une chose qui me paraît essentielle pour votre avenir, et l'État peut vous accompagner, mais ça demande réflexion, c'est sur l'éducation. L'éducation. Alors évidemment, on va parler de filières, de tourisme, d'énergie renouvelable, de pêche, de choses que vous ne parlez pas, l'agriculture, qui est un gisement d'emplois considérable, l'agroalimentaire considérable. Mais l'éducation, c'est pas normal, et quand je dis ça, je m'accuse, en tant qu'État. Parce que c'est l'État qui finance l'essentiel, M. Le Hozer. C'est bien ça. On doit avoir 540 millions, M. Le Président. L'État, bon, de dire, on ne peut pas laisser nos enfants avoir autant d'échecs sur une cohorte. De dire que lorsque 60-70% d'une génération arrive au bac en métropole, ici c'est 23%. Et je ne parle pas de celles et de ceux qui accèdent à un cursus universitaire. Je dis ça. On se donne un plan sur 10 ans, sur 15 ans, pour dire, sur les 5 ans qui viennent, il faut que 50% qu'on double les succès au bac. Qu'on ait plus de jeunes qui réussissent dans les filières techniques. Un pays qui se développe, c'est un pays qui a privilégié les filières techniques et scientifiques. Je ne dis pas que je serais contre les humanités. Un petit pays, une petite ville comme Pondichéry fait 8000 ingénieurs par an, autant que la France entière. Bon, donc, de prioriser, de revaloriser le manuel, l'apprenti, de faire ça, de se donner cet objectif-là. Lorsque vous avez donc créé cette élite-là, je crois, moi, à une forme d'élite, d'élitisme, de circulation des élites. Je pèse mes mots, mais c'est ça. Chevènement l'avait fait, il avait appelé ça l'élitisme républicain. Eh bien, vous aurez des gens capables de créer l'activité, capables de faire venir, capables de créer une diaspora et de revenir chargés d'expérience et d'ouvrir encore plus qu'il n'en faut la Polynésie sur le monde et de bien l'insérer dans son environnement immédiat, à savoir le Pacifique, qui est le nouvel axe du monde. Et ça, pour ça, il vous faut mettre l'accent sur l'éducation. L'éducation, la formation, les qualifications. Sincèrement, je crois ça. Ça peut paraître pas très gratifiant pour un homme politique. Vous ne voyez pas les résultats tout de suite. Et en revanche, les parents comprennent très bien. Ce sont aussi des électeurs qui ont travaillé pour leurs enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous mettez l'accent sur l'éducation en Polynésie, mais c'est partout dans le monde. Si vous voulez que vos enfants réussissent, il faut commencer à les scolariser entre 0 et 3 ans. Moi, j'ai été à l'école, j'avais 6 ans. Il n'y avait pas classe. Il n'y avait pas assez de classe. Et donc, on vous faisait doubler, tripler en cours moyen deuxième année avant de passer en sixième. Il n'y avait pas assez de place. Bon, aujourd'hui, on sait que les enfants qui réussissent, c'est des enfants qui ont été socialisés de manière précoce, qui ont été scolarisés, qui ont fréquenté et donc qui assimilent un peu les fondamentaux plus rapidement que les autres. C'est 0-3 ans. Ça veut dire quoi? Pour une commune, compétence de commune. Est-ce que les communes de la Polynésie ont les moyens? Je n'en sais rien. Apparemment, non. Les maternelles. Mais avant les maternelles, il faut les crèches. Je peux vous dire, c'est de vrais investissements. C'est soutenir la commande publique. Et en même temps, ça libère les femmes. C'est en général les femmes qui s'occupent des enfants. Ça permet, lorsque les enfants sont socialisés dans les crèches, dans les haltes de garderie, dans les maternelles. Moi, dans une vie antérieure, j'ai été président de région. Eh bien, j'ai aidé les communes par subvention pour créer des crèches. Ce n'était pas ma compétence, mais on savait que ça se jouait là, de créer des crèches et de créer des maternelles. Et en contractualisant avec les communes, et on avait un programme transparent pour qu'on ne dise pas tiens, il a aidé ses amis, etc., socialistes, etc., il n'a pas aidé les élus de droite. Bon. Vous devrez, à mon sens, ici, et le président est là, probablement avoir cela. Et l'État ne peut pas être indifférent, puisque l'État est très présent dans l'éducation primaire et secondaire. Et donc, il faut mettre l'accent dessus. Et puis, bien entendu, vous avez des atouts que vous connaissez bien. C'est le tourisme. Et, aujourd'hui, vous êtes, je crois, combien? 160 000 touristes, c'est ça, à peu près? Bon, il faut voir ça. Pour ça, le désenclavement aérien, numérique, le prix des billets, les hôtels, d'où un gros projet conduit le gouvernement et l'Assemblée. Oui, il faut des sites attractifs, des produits d'appel et peut-être un tourisme haut de gamme pour supporter la concurrence. Compte tenu de vos coûts, qui sont comparativement plus élevé que ce qui se fait dans le voisinage. Et vous êtes... L'économie touristique est une économie mondiale. Vous êtes en concurrence, vous ne le savez pas, mais vous le vivez avec Saint-Domingue. Pourtant, c'est un autre océan. Hein. Le touriste, le Siriwaga, je vais où? Et lorsqu'il vient chez vous, il doit reprendre un avion s'il veut aller à Bora Bora ou s'il veut aller aux Marquises. L'avion, c'est trop cher, eh bien, il vous dira, mon séjour me coûte trop cher. Et donc, vous avez un problème de compétitivité. Et donc là, il faut réfléchir à ça. Oui, c'est un vrai atout. Et donc, vous pouvez l'exploiter sur la pêche. Vous avez là aussi, pas simplement aquaculture, périculture, mais la pêche. C'est l'avenir, l'espace et le fond des mers, c'est l'avenir du monde. Et donc, d'ores et déjà, vous avez plus de 7 millions de kilomètres carrés autour de... et à l'intérieur de la Polynésie. Donc, vous devenez, si j'ose dire, pour les années à venir, pas simplement en termes de biodiversité, mais en termes de possibilités, de potentiel économique et halieutique et halioalimentaire, vous devenez, j'allais presque dire, le centre du monde. Et donc, d'ores et déjà, il faut avoir quelques schémas directeurs pour se projeter dans l'avenir. Et puis, l'agriculture. L'agriculture, c'est plus personne ne veut faire ça. Alors, c'est vrai, vous avez un facteur limitant qui est la terre, le foncier. Mais on sait depuis longtemps que l'agriculture n'est plus limitée par le foncier. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du hors-sol. Ça coûte plus cher. Mais vous pouvez faire du hors-sol. Vous pouvez faire de la sériculture, sous serre, sous ombrière. C'est vrai que pour ça, il faut un dispositif de subvention, de subventionnement pour permettre, puisque au mètre carré, ça coûte plus cher. Je peux vous dire, là, les rendements sont très élevés. Vous faites de la tomate sous serre, vous avez 3 récoltes, c'est pas plus. Il suffit de maîtriser la solution nutritive pour alimenter les plantes, vous n'avez pas besoin de terrain. Il faut un substrat, ça peut être du silicium, du sable, de la pozzolane. C'est des choses qui sont aujourd'hui classiques. et vous aurez, vous avez un marché de 268 000 personnes, vous pouvez faire ça. Bon, voilà, je vous dis ça en vrac, mais je pourrais rester encore plus longtemps sur les dispositifs, j'allais presque dire permissifs au développement. En tout cas, j'aimerais finir pour vous dire que nous sommes attentifs, nous ne laisserons pas tomber la Polynésie française. On peut toujours nous accuser de tous les maux. Vous êtes français. Vous avez choisi librement vos dirigeants. Nous respectons la démocratie et ce qui en sort. Vous avez des élus, ils sont là. Ce sont des gens qui discutent. On va regarder les dossiers qu'ils envoient, ce que l'on fait, sur leur sérieux, sur la régularité, l'entêtement qu'on met à dessiner une trajectoire et à s'y tenir. Eh bien, on aurait mauvaise grâce que de ne pas accompagner les gens qui font des efforts, qui demandent un accompagnement, mais qui font des efforts. Donc, je ne dis pas ça sans être complaisant, mais on est vigilant. Le président Floss le sait. Mais on fera ce qu'il faut faire, parce que nous estimons qu'il y a tellement d'atouts ici, si on se projette dans l'avenir, si des schémas sont faits, si des plans pluriannuels sont faits, si des redressements, des stratégies de redressement pluriannuels sont faits pour retrouver les fondamentaux, vous avez, je dirais pas un avenir en arc-en-ciel, mais vous avez des lendemains moins difficiles qu'aujourd'hui. En tout cas, merci à vous. Vous m'avez entendu, et je vous ai asséné un discours improvisé, alors que j'avais un gros texte que j'ai là. J'aurais aimé vous entendre, peut-être qu'on le fera tout à l'heure.